Le journal est présenté par Camille Magnard.
Bonjour. Le Hezbollah libanais est-il soluble dans un scrutin proportionnel? C'est le principal enjeu des élections législatives qui se déroulent au pays du Cèdre. Reportage d'Omar Waman dès le début de ce journal. Au sommaire également l'Iran, où les rivalités entre le président Rouhani et l'ayatollah Khamenei se cristallisent désormais autour du réseau social Telegram. L'Autriche, où les derniers rescapés du camp de Mauthausen ne veulent pas du FPO, l'ancien parti néo-nazi désormais au pouvoir, aux commémorations de la libération. Et en France, la fête à Macron qui redonne des couleurs à l'opposition de gauche. 40 000 participants hier à Paris. Les Libanais ont rendez-vous avec les urnes ce dimanche. Élections législatives continuellement repoussées depuis 2009 dans ce pays très fragilisé, on le sait, par la guerre en Syrie et les rivalités régionales entre Iran et Arabie Saoudite. Avec, pour la première fois, un mode de scrutin proportionnel. On scrutera tout particulièrement les scores du Hezbollah chiite, allié de Téhéran, qui pourrait reculer dans son fief de la plaine de la Bekaa, où s'est rendu pour nous Omar Waman.
Dans les rues de Baalbek, les drapeaux jaunes du Hezbollah sont omniprésents. Le mouvement chiite jouit dans cette ville d'une grande popularité. Le maire Hussein Lakis.
Hezbollah est pour tout le monde. Il a cherché beaucoup de services publics pour la région. Au niveau de sanitaire, eau potable, électricité, santé, il est pour tout le monde.
Et à Baalbek, le Hezbollah a l'habitude de rafler tous les sièges lors des élections. Et pourtant, les opposants au parti de Dieu ne manquent pas. Ali, un dentiste.
Le problème avec le Hezbollah, c'est qu'il a pris en otage la région. Il pousse les gens à la pauvreté afin de les obliger à aller se faire tuer en Syrie, au Yémen ou à Bahreïn pour 400 dollars par mois. Ce que nous voulons avant tout, c'est la sécurité et le retour des touristes. Mais sans sécurité, il n'y a pas de tourisme.
Et un début de changement pourrait bien avoir lieu avec l'instauration pour la première fois du mode de scrutin proportionnel, se réjouit Antoine Apchi, candidat sur une liste d'opposition au mouvement chiite.
C'est comme si c'est la première fois qu'il y ait élection à Baalbek. Parce que avant, c'était déjà joué. Aujourd'hui, il y a de l'espoir chez les gens parce que les choses peuvent changer.
Conscient du danger, le Hezbollah a multiplié en fin de campagne les discours contre la corruption et s'est engagé pour plus de justice sociale.
On vote également aujourd'hui en Tunisie. Ce sont les premières élections municipales libres là-bas depuis la révolution de 2011. Une étape importante dans l'affirmation démocratique tunisienne avec le président Essebsi qui appelle à une participation massive, mais les derniers sondages qui font plutôt craindre une abstention record. Nous parlions il y a un instant de l'Iran à travers les législatives au Liban, mais à Téhéran même, la situation politique se tend encore un peu plus entre le camp réformateur du président Rouhani et les conservateurs menés par l'ayatollah Khamenei. Ces derniers ont fait interdire jeudi le réseau social crypté Telegram utilisé par 40 millions d'Iraniens et cette interdiction a été condamnée ensuite publiquement par Hassan Rouhani. Voilà qui divise encore plus les deux pôles du pouvoir iranien, comme l'analyse le chercheur à l'Iris, Karim Pakzad.
En Iran, il n'y a pas une unanimité pour décider d'interdire Telegram. Le président de la République, M. Rouhani, il est opposé à cette décision. Lui, il pense qu'il ne faut pas empêcher la population de s'informer. Et il a laissé entendre directement que c'est le guide suprême qui a décidé et donc le gouvernement iranien n'est pas responsable de cette décision. Il y a une vraie lutte qui se déroule depuis l'élection de M. Rouhani. Ce n'est pas le seul sujet sur lequel M. Rouhani est opposé au pouvoir judiciaire, mais au-delà du pouvoir judiciaire, au guide suprême qui, lui, contrôle le pouvoir judiciaire. Il y a eu des mécontentements populaires à travers l'ensemble de l'Iran. Et là, on a vu que cette fois-ci, le Telegram qui a joué ce rôle. Et cela a fait craindre le régime iranien.
Le spécialiste de l'Iran à l'Iris, Karim Pakzad, interrogé par Guillaume Périllou. Dans le nord de l'Afghanistan, les talibans reculent finalement. L'armée afghane annonce qu'elle a repris le contrôle ce matin du district du Kohistan, où les talibans avaient lancé leur offensive de printemps. Jeudi, des combats se poursuivent dans d'autres régions du pays. Un an de présidence Macron en France, l'anniversaire c'est demain, mais dès hier, des dizaines de milliers d'opposants à gauche ont fait sa fête à Macron. L'idée, on le sait, avait été lancée par le député La France Insoumise François Ruffin, mais le rassemblement résolument festif a mobilisé au-delà des rangs insoumis 40 000 participants rien qu'à Paris et des espoirs de voir se dessiner cette fameuse convergence des luttes que beaucoup espèrent à gauche. Gaël Joly.
Ça va péter, chantaient hier soir les manifestants sur la place de la Bastille, regonflés à bloc. Ils commencent à y croire, à cette convergence des luttes.
On a vraiment juste une sensation de mécontentement généralisé. C'est vraiment ça qui est là, sur la pelouse. Mais justement, il faut le canaliser pour que, effectivement, ça ne parle que par le nombre à ces gens-là. Et en tant que nombre, ça c'est important.
Mais pour cela, il va falloir bosser dur, prévient Michel, retraité.
Ça ne va pas se faire tout seul, c'est du travail au quotidien, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Il y a plusieurs rendez-vous, il faut les construire, chacun doit prendre sa responsabilité là où il est pour participer au mouvement et l'amplifier. En tout cas, le mois de mai, c'est le mois de l'espoir.
Un espoir auquel se raccroche aussi Olivier Besancenot, figure du NPA.
On aura peut-être un joli mois de mai 2018 et c'est ce qu'on cherche précisément. Ça redonne de la confiance collective, ça permet justement de mieux préparer les grèves, les manifestations qui viennent. Et de remettre, de planter dans le décor la perspective d'une nouvelle grande journée d'action où cette fois-ci il y a les syndicats et les partis ensemble.
Rendez-vous a été pris le 26 mai prochain pour une nouvelle mobilisation, car il l'espère, celle-là n'était qu'un tour de chauffe.
Gaël Joly pour France Culture. Chez Air France, le PDG Jean-Marc Janaillac accepte de conserver ses fonctions jusqu'au 15 mai. Il avait annoncé vendredi sa démission après l'échec de sa consultation lancée auprès des salariés. Les actionnaires d'Air France lui ont demandé de rester jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. Des cahiers de doléances remis aux dirigeants de l'Europe avant les élections de l'an prochain. L'idée de cette grande consultation des peuples européens avait été lancée par Emmanuel Macron. Elle prend corps à Bruxelles, où 100 citoyens de tous les pays membres ont été invités pour débattre, mettre des idées sur un rêve européen plutôt écorné. Pierre Benazet.
Ils viennent des régions les plus diverses et quelquefois les plus reculées d'Europe, mais pas pour écouter une conférence ou rencontrer les dirigeants des institutions européennes. Ils viennent pour débattre entre eux. Le but, c'est de confronter leurs propres idées, comme David Legendre, venu de Rouen, qui demande entre autres plus d'efficacité pour l'environnement.
Pour moi, l'environnement passe vraiment en premier parce que des décisions qui vont être prises pour la préservation de l'environnement vont dépendre après des décisions sociales, des décisions d'éducation. Je pense vraiment que c'est au centre de tout aujourd'hui.
Les préoccupations des uns sont rarement sans écho. Plusieurs ont plaidé par exemple pour un meilleur recyclage ou contre le gaspillage alimentaire, comme le luxembourgeois Paul Veins qui prend l'exemple des dates de péremption des yaourts.
Moi aussi je lui dis franchement, les yaourts qui sont déjà périmés depuis un mois, moi je les mange, ils sont encore bons. Et c'est ça qui me fâche un petit peu, qu'on fasse pas trop de pression sur les producteurs. Entre la différence de date de périmation et la date de consommation, là il faudrait qu'ils fassent quand même plus d'interventions en ce sens-là.
Beaucoup se préoccupent de l'intégration culturelle des migrants, de l'égalité des salaires hommes-femmes, de la bureaucratie excessive. Les questions sont souvent communes, elles font fi des frontières. Ce dimanche, ils mettront tous ensemble leurs préoccupations pour rédiger 12 questions qui seront posées lors du prochain sommet européen.
Pierre Benazet à Bruxelles. Nous partons à présent pour Vienne, où le FPÖ, parti d'extrême droite qui partage le pouvoir avec le centre-droit, est persona non grata ce dimanche aux commémorations qui marquent les 73 ans de la libération du camp nazi de Mauthausen, précision d'Isorias depuis Vienne.
Le comité autrichien Mauthausen, qui regroupe plusieurs dizaines de rescapés, l'a fait savoir très clairement, le FPÖ n'est pas le bienvenu aux cérémonies organisées aujourd'hui dans l'ancien camp de concentration. Voir ce parti, fondé par d'anciens nazis dans les années 50 aux commémorations, serait une humiliation supplémentaire pour les survivants, selon le comité. Ce n'est pas vraiment une surprise, car depuis les années 60, le FPÖ est persona non grata à Mauthausen, mais depuis décembre dernier, le parti est au gouvernement aux côtés des conservateurs et espérait à ce titre assister aux cérémonies. Hors de question pour le comité qui recense chaque mois les dérapages antisémites et racistes de membres du FPÖ. Et les scandales ont été nombreux ces derniers mois, notamment en raison des liens entre certains membres du parti et des corporations extrémistes, les Burschenschaften, accusés d'entretenir une certaine nostalgie du Troisième Reich. Le FPÖ regrette cette décision qu'il juge politique. Certains membres du parti ont rappelé que leur leader, Heinz Christian Strache, a condamné officiellement l'antisémitisme à de nombreuses reprises depuis qu'il est vice-chancelier, argument qui n'a apparemment pas convaincu.
Isorias en Autriche pour France Culture. La météo, enfin, c'est un grand soleil sur une large moitié nord du pays. Des grisailles et de possibles averses pour le quart sud-est. Les températures cet après-midi seront comprises entre 20 degrés pour Bayonne et Clermont-Ferrand jusqu'à 27 à Paris.